vous cache pas que je suis un peu sur les charbons ardents en décidant de prendre le risque de vous parler de Céline, puisque c'est un auteur sulfureux, qu'il est toujours délicat d'évoquer publiquement. Et les récentes polémiques autour de du 50e anniversaire de sa mort n'ont certainement rien simplifié. Pour déplacer le problème, je voudrais commencer par un peu d'écoute, afin de faire entendre ce qui continue à rendre Céline, à mon sens, extraordinairement précieux. Et il ne s'agira certainement pas par là de chercher à racheter ses prises de position, ce qui ne ferait d'ailleurs vouloir le racheter que perpétuer le cercle vicieux de la dette et du remboursement, dont il présente lui-même toute la violence dans le texte que j'ai choisi de vous faire partager aujourd'hui, « Mort à crédit ». Donc je vais vous faire écouter un texte d'Allen Ginsberg, en vous expliquant plus longuement pourquoi, mais je pense que vous verrez rapidement les raisons. Un poème qui s'appelle « Sunflower Sutra », le sutra du tournesol. Et puis ensuite, je vous lirai un texte de Céline. Donc c'est le texte de Ginsberg, c'est celui que je vous ai distribué.
Le style, c'est un exemple d'un surréalisme locomotif, rapidité des images, rapidité des voyelles. I walked on the banks of the tin can banana dock and sat down under the huge shade of a Southern Pacific locomotive to look at the sunset over the box house hills and cry. Jack Kerouac sat beside me on a busted, rusty iron pole companion. We thought the same thoughts of the soul, bleak and blue and sad-eyed, surrounded by gnarled steel roots of trees of machinery. The oily water on the river mirrored the red stream. Sun sank on top of final Frisco peaks. No fish in that stream. No hermit in those mounts. Just ourselves, roomy-eyed and hungover like old bums on the riverbank. Tired and wily. Look at the sunflower, he said. There was a dead gray shadow against the sky, big as a man, sitting dry on top of a pile of ancient sawdust. I rushed up enchanted. It was my first sunflower. Memories of William Blake, my visions, Harlem, and hells of the eastern rivers, bridges clanking Joe's greasy sandwiches, dead baby carriages, black treadless tires forgotten and unretreaded, the poem of the riverbank, condoms and pots, steel knives, nothing stainless, only the dank muck and the razor-sharp artifacts passing into the past, and the gray sunflower poised against the sunset, crackly, bleak and dusty with the smut and smog and smoke of olden locomotives in its eye, corolla of bleary spikes pushed down and broken like a battered crown, seeds fallen out of its face, soon to be toothless mouth of sunny air, sun rays obliterated on its hairy head like a dried wire spider web, leaves stuck out like arms out of the stem, gestures from the sawdust root, broke pieces of plaster fallen out of the black twigs, a dead fly in its ear, unholy battered old thing, you were my sunflower, oh my soul, I loved you then. The grime was no man's grime, but death and human locomotives. All that dress of dust, that veil of darkened railroad skin, that smog of cheek, that eyelid of black misery, that sooty hand or phallus or protuberance of artificial, worse than dirt, industrial, modern, all that civilization spotting your crazy golden crown, and those blear thoughts of death and dusty, loveless eyes and ends and withered roots below, in the home pile of sand and sawdust, rubber dollar bills, skin of machinery, the guts and innards of the weeping, coughing car, the empty, lonely tin cans with their rusty tongues, alack, what more could I name? The smoked ashes of some cock cigar, the cunts of wheelbarrows and the milky breasts of cars, worn out asses out of chairs and sphincters of dynamos. All these entangled in your mummied roots, and you there standing before me in the sunset, all your glory in your form. A perfect beauty of a sunflower, a perfect, excellent, lovely sunflower existence. A sweet, natural eye to the new, hip moon woke up, alive and excited, grasping in the sunset shadow, sunrise, golden, monthly breeze. How many flies buzzed round you, innocent of your grime, while you cursed the heavens or the railroad in your flower soul? Poor dead flower. When did you forget you were a flower? When did you look at your skin and decide you are an impotent, dirty old locomotive? The ghost of a locomotive. The specter and shade of a once powerful, mad American locomotive. You were never no locomotive, sunflower. You were a sunflower. And you, locomotive, you're a locomotive. Forget me not. So I grabbed up the skeleton thick sunflower and stuck it at my side like a scepter and delivered my sermon to my soul and Jack's soul too and anyone who'll listen. We're not skin of grime, not dread, bleak, dusty, imageless locomotive. We're golden sunflowers inside, blessed by our own seed and hairy, naked accomplishment bodies growing into mad, black, formal sunflowers in the sunset, spied on by our own eyes under the shadow of the mad locomotive riverbank, sunset, Frisco, hilly, tin can, evening, sit down, vision.
Bon, je vais pas commenter tout de suite, je vais enchaîner avec la lecture de l'extrait de Céline que je vous ai fait circuler. Elle comprenait toute la féerie, Mireille, ma mignonne. Elle en profitait tant qu'elle pouvait de mon cinéma. D'un coup, je la préviens. Si tu répètes à Rancy, je te ferai manger tes chaussures. Et je la saisis sous le bec de gaz. Elle prend déjà l'air victorieux. Je sens qu'elle va débloquer partout que je me conduis comme un vampire. Au bois de Boulogne. Alors la colère me suffoque. Pensez qu'encore une fois, je suis fleur. Je lui refile une mornifle tassée. Elle ricane. Elle me défie. Des taillis, des petits bosquets, de partout les gens surgissent pour nous admirer, par deux, par quatre, en vraie cohorte. Ils tiennent tous leurs panais en main, les dames retroussées derrière et devant, des osées, des pas sérieuses, des plus prudentes. « Vas-y Ferdinand !» qui m'encouragent tous. C'est une énorme rumeur. Ça monte des bois. « Dérouille-la bien ta gamine, il va lui en sortir une !» Forcément, ça me rendait brutal de les entendre me stimuler. Mireille s'est mise à cavaler en poussant des glapissements. Alors moi, je la course et je me décarcasse. Je lui balance des vaches coups de tatane à travers les fesses. Ça sonne mat et lourd. Des débauchés du Ranelag, il y en avait encore des centaines qui affluaient. Devant, ils se groupaient par biroute, ils poulopaient loin par derrière. C'était envahi, les pelouses, des milliers à travers l'avenue. Il en arrivait tout le temps d'autres, du fond de la nuit. Toutes les robes étaient en lambeaux. Nichons branlants, arrachés, petits garçons sans culotte. Ils se renversaient, piétinaient, se faisaient rejaillir à la volée. Il en restait pendu aux arbres. Après les chaises, des morceaux. Une vioque, une anglaise, d'une petite automobile, sortait la tête à se démancher. Elle me gênait même pour que je travaille. Jamais j'avais vu des yeux si heureux que les siens. « Hooray! Hooray! Garçon magnifique !» qu'elle me criait en plein élan. « Hooray! Tu vas lui crever l'oignon! Il y aura du monde dans les étoiles! L'éternité va lui sortir! Vive la science chrétienne !» Je me dépêchais encore plus. J'allais plus vite que son auto. Je me donnais entier à ma tâche. Je dégoulinais la sueur. En chargeant, je pensais à ma place, que j'allais sûrement la perdre. J'en refroidissais. « Mireille, pitié, je t'adore. Vas-tu m'attendre, immondice? Me croiras-tu ?» Arrivé à l'Arc de Triomphe, toute la foule s'est mise en manège. Toute la horde poursuivait Mireille. Il y avait déjà plein de morts partout. Les autres s'arrachaient les organes. L'anglaise coltinait son auto au-dessus de sa tête, à bout de bras. « Hooray, hooray !» Elle en culbute l'autobus. Le trafic est intercepté par trois rangs de mobiles au port d'armes. Les honneurs, c'est alors pour nous. La robe à Mireille s'envole. La vieille anglaise bondit sur la môme, lui croche dans les seins, ça gicle, ça fuse, tout est rouge. On s'écroule, on grouille tous ensemble, on s'étrangle. C'est une grande furie. La flamme sous l'arc monte, monte encore, se coupe, traverse les étoiles, s'éparpille au ciel. Ça sent partout le jambon fumé. Voici Mireille à l'oreille qui vient me parler enfin. « Ferdinand, mon chéri, je t'aime. C'est entendu, t'es plein d'idées. » C'est une pluie de flammes qui retombe sur nous, on en prend des gros bouts chacun, on se les enfonce dans la braguette grésillante, tourbillonnante, les dames s'en mettent un bouquet de feu. on s'est endormis les uns dans les autres. 25 000 agents ont déblayé la Concorde. On n'y tenait plus les uns dans les autres. C'était trop brûlant. Ça fumait. C'était l'enfer. Comme pour moi ici, il s'agit d'abord de vous suggérer les relations entre la lecture et l'écriture dans mon travail ou dans ce qui pourrait être votre travail, je voulais vous faire entendre ce que je crois être des résonances entre ce que j'écris et ce que je lis ou ce que j'écoute. Bon, il ne s'agit pas de classement, hein, bien sûr, c'est pas évident de vous parler de moi après avoir lu Ginsberg et Céline. Mais pour être honnête, j'ai même commencé à écrire en refermant mon raccrédit, comme pour prolonger la vibration que j'ai voulu vous faire entendre là. Parce que dans cette écriture, il y a justement une affaire de vibration, c'est-à-dire de son, mais aussi de rythme. Et cette affaire-là bouleversait le jeune musicien que j'étais, en trouvant des équivalents à la plasticité de la langue anglaise dans le français. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous faire d'abord écouter Allen Ginsberg. Il me semble que Céline est celui et l'un des seuls dans nos écrivains, disons, récents, si j'envisage la littérature comme une tradition longue, à avoir réussi à faire jaillir un certain nombre d'outils linguistiques qui permettent de donner au français la même vigueur rythmique que l'anglais. Et cette langue-là, qui n'est pas vaguement musicale, mais qui est musique, Céline l'invente pour de bon avec Moracredi. Et c'est pour ça que je voulais qu'on travaille sur ce roman. Moracredi, qui est son deuxième grand texte romanesque, dans Voyage au bout de la nuit, qui est un premier roman qui a été jugé très, très subversif, Céline reste à ce titre encore relativement timide. Et il le reconnaît d'ailleurs lui-même. Hein, à l'échelle de la phrase, Céline considère que Voyage au bout de la nuit est encore un roman assez classique. C'est dans Moracredi que sa langue musique surgit pour de bon. Et je vais donc vous parler un peu longuement de ce que Céline appelait lui-même sa petite musique. Hein, l'expression « petite musique » est de lui. Mais pour cela, je crois qu'il faut d'abord décrire le genre apparemment paradoxal, c'est-à-dire un roman autobiographique, centré sur les premières années, qui caractérise Moracredi. Et on verra que ce récit d'une vie a une ambition bien plus vaste que la description d'une subjectivité. C'est une définition métaphysique de la vie à travers un mécanisme bien connu en anthropologie, en psychanalyse et en philosophie, le mécanisme de la dette, le crédit, Moracredi. Voilà, je crois qu'il s'agit pour Céline beaucoup plus que de rendre compte de son expérience. Il utilise son expérience pour nous donner une définition de la vie telle qu'elle est aliénée par le mécanisme de la dette. Moracredi, c'est une définition de la vie aliénée. La vie, quand on est endetté, ça consiste à acheter sa mort à crédit. C'est l'un des sens possibles du titre du roman. Voilà, donc je vais effectivement d'abord vous parler de dimension de roman autobiographique, essayer de comprendre en quoi cette expression pour Céline n'est pas paradoxale, en quoi on peut raconter sa vie à travers un roman, ou en quoi on peut utiliser pour un roman un matériau autobiographique. Donc ensuite je vous parlerai de cette expression « ma petite musique », et je terminerai par les relations entre vie et dette dans ce texte. Donc, un roman autobiographique ou songe versus mensonge. D'un certain point de vue, Moracredi est un roman classique. Ce point de vue, c'est le point de vue du roman de formation. Un roman de formation, c'est un genre bien repéré. C'est une invention européenne qui a été rapidement codifiée. C'est une tradition, quoi, le roman de formation. Et Moracredi s'inscrit dans cette perspective d'une façon qui n'est pas si révolutionnaire que ce qu'on a pu en dire. La révolution, elle se passe à un autre endroit. Et je crois que, dans l'esprit de Céline, proposer un roman de formation relativement classique, sur le plan de la construction narrative, sur le plan des étapes, des épreuves, c'était pour lui une façon de prendre le lecteur en main, de lui dire « viens avec moi », et du coup, de se permettre des audaces, au niveau du style, bien plus grandes. Parce que le lecteur est embarqué sur des rails. Donc, Moracredi prolonge le projet d'autobiographie romanesque qui caractérisait déjà le Voyage au bout de la nuit. C'est le même paradoxe, hein, Voyage au bout de la nuit, c'est un roman autobiographique. et qui restera, après mort à crédit d'ailleurs, le sillon creusé par Céline dans toute son œuvre. On peut dire que toute l'œuvre romanesque de Céline, c'est un roman autobiographique. C'est la grande différence avec les pamphlets, avec les textes qui ont fait polémique d'ailleurs, qui ne sont pas romanesques. Donc, par rapport au voyage, on retrouve le même personnage central, qui est à la fois protagoniste, personnage principal, et narrateur, Ferdinand, qui ne s'appelle plus toutefois Bardamu, comme dans le voyage. C'est la grosse différence. Il n'a pas de pseudonyme. On a beaucoup de prénoms qui figurent dans Mort à crédit. On a certains noms de famille aussi, notamment pour l'inventeur, hein, qui a un nom de famille à rallonge, Courtial, Desperère, etc. Dans la famille de Ferdinand, il n'est pas fait mention de nom de famille. Et peut-être parce que c'est pas la peine. C'est la famille. Donc il n'a pas besoin d'être attaché à... Mais Mort à crédit, deuxième roman, donc qui prolonge le caractère de roman autobiographique, c'est le roman des premières années. Il y a une inversion de l'ordre de la publication des romans et de l'ordre du récit de vie, quoi. L'expérience rapportée précède celle de Voyage au bout de la nuit, c'est l'enfance et l'adolescence. Donc ce texte qui a été si décrié à sa sortie en 1936 comme bombe littéraire est un roman classique sur un point au moins. Il s'agit d'un roman de formation. Ce genre est bien connu, le traitement narratif qu'en fait Céline n'a rien de révolutionnaire puisqu'il est parfaitement linéaire. Il n'y a pas de rupture dans la fiction avec des flashbacks, non. Il y a des rêves, il y a des trous, mais grosso modo, la narration est linéaire après un prologue d'installation dont je vais parler un petit peu. Donc sur ce plan, hein, sur le plan de la construction, sur le plan du jeu, sur le code du roman de formation, Céline est peut-être moins révolutionnaire que le Flaubert de l'éducation sentimentale, qui a écrit bien avant, qui a écrit presque 80 ans. D'ailleurs, j'ai retrouvé le bouquin pendant que je vous ai écouté Ginsberg, par chance, il était là. Et la fin de... Au tout début de la deuxième page de l'éducation sentimentale, c'est « Et bientôt, Paris disparaissant, il poussa un grand soupir ». Cet itinéraire-là, qui est le parcours de Frédéric Moreau dans l'éducation sentimentale, c'est le contraire du roman de formation habituel. Un roman de formation, typiquement chez Balzac, c'est quoi ? C'est un type qui vient de province et qui monte à Paris. Qui va conquérir Paris. À nous deux, Paris. L'éducation sentimentale, ça commence par un type qui quitte Paris. Donc Flaubert nous dit tout de suite, haha, je connais le genre, je vais jouer avec, etc. Bien dans sa manière de... Il a une approche ludique de la littérature, Flaubert, pour tout un pan de son travail. Bon, c'est beaucoup plus corrosif que Mort à crédit, là-dessus. Mort à crédit, c'est un roman de formation beaucoup plus sage sur la construction d'ensemble. En effet, dans ce qui se présente à premier jet, je dirais à première lecture, comme un véritable flot narratif, hein, Mort à crédit, ça vous envoie quand même de l'air dans la figure, on repère malgré tout une structure qui est très nette, qui est organisée de façon cruciale par le rapport d'un jeune garçon à son père. Il n'y a pas mieux comme roman de formation. Ça commence par un prologue dont le temps de l'action est contemporain du temps de l'écriture. Donc c'est le quotidien sordide et burlesque d'un médecin de banlieue qui est lui-même malade. Donc c'est Ferdinand adulte qu'on rencontre au début de Mort à crédit, quelques années après la fin de Voyage au bout de la nuit. Et ce Ferdinand adulte, devenu médecin et malade, au cours d'un accès de fièvre, il est visité par sa mère, qui vient de veiller, et qui commence à évoquer des souvenirs avec lesquels lui n'est pas d'accord. Elle se met à parler de l'enfance de Ferdinand, alors qu'elle le borde, qu'elle lui prend la température, etc. Et il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord sur sa version. Et comme il a la fièvre, il laisse remonter sa propre version des faits, d'abord au sujet de la figure du père. C'est autour de la figure du père qu'il n'est pas d'accord. Donc, les souvenirs surgissent, avec une première partie, très nette, enfance familiale, jusqu'à la page 340 à peu près, dans l'édition Folio, qui est la mienne de référence. Il y a une pléiade, il y a plusieurs folios qui circulent. Donc, enfance familiale, jusqu'au meurtre symbolique du père, qui dans les faits n'est pas tué mais assommé, et c'est très notable, d'un coup de machine à écrire. C'est la formation d'un écrivain. L'oncle maternel, Édouard, joue alors, comme il l'a déjà fait de nombreuses fois dans cette première partie, un rôle crucial d'intercesseur et de sauveur pour sortir Ferdinand de la famille et l'ouvrir à la société. C'est la grande tension au niveau de l'institution, au niveau des institutions sociales, dans Mort à crédit, entre famille et société, quoi. Les deux grands groupes sociaux structurants en Europe. L'articulation est très rude dans la vie de Ferdinand, et ça passe par l'oncle maternel. qui fait figure de truchement, qui est à la fois dans la famille et déjà un peu extérieur au noyau. Et cette première partie s'achève d'ailleurs par « Oui, mon oncle ». Oui, mon oncle. C'est Ferdinand qui dit « Oui, mon oncle ». Il écoute ce que lui dit son oncle. Et qu'est-ce qu'il lui dit, son oncle ? Il lui dit, deuxième partie, « Tu vas sortir de la cellule familiale pour une adoption symbolique par un hyper-père, cette fois. » C'est pas une sortie de la famille qui est une grande libération. Cette figure d'hyper-père, c'est l'inventeur génial et raté, Courtial des Pereres, où l'on entend d'ailleurs père au pluriel, hein, Pereres, c'est quand même bien trouvé. Toute cette partie est très foisonnante, l'issue est tragique puisque Courtial des Pereres est plus raté que génial et finit par se suicider. Retour chez l'oncle, dernière phrase du roman, non, mon oncle. La structure, elle est claire, quoi. C'est à propos d'un détail qui dit non, mon oncle. Ça a l'air d'être une dernière réplique très anodine. Voilà, il y a tout un truc sur le vomissement d'un mort à crédit. Et à la fin, je vais en parler. Et à la fin, après la période Courtial des Pereres, Ferdinand retourne chez l'oncle et avec tout ce qu'il a vu de choquant, il est très malade. Et l'oncle lui dit, si tu dois sortir pour vomir, prends un de mes pardessus pour pas prendre froid. C'est pas les pardessus qui manquent. Non, mon oncle. Bon, ça a l'air anecdotique, c'est beaucoup plus qu'anecdotique dans le micro-contexte. Et puis ce non, mon oncle, répond vraiment bien au oui, mon oncle, de la première césure. Donc on peut résumer le parcours de mort à crédit comme ça, c'est une double mort du père pour devenir soi-même. Le père qu'on assomme avec une machine à écrire, et des pères, le père au pluriel, le père démultiplié qui finit par se suicider. Soi-même, c'est quoi ? Bah, c'est le soldat, Ferdinand. Puisque Ferdinand promet à son oncle qu'il va s'engager dans l'armée à la fin de Mort à crédit. Ce qui boucle avec le début du voyage au bout de la nuit. Donc Mort à crédit assure le passage du récit de formation à l'épopée. L'épopée, c'est un roman guerrier, quoi. Et Voyage au bout de la nuit, c'est un roman guerrier. Un roman guerrier, un roman de guerre. Un roman de guerre subversif, décalé, etc. Mais c'est un roman de guerre. C'est la grande tradition d'épopée, ouverte avec Homer. Donc tout cela se passe de la formation à l'épopée sur le mode célinien du ratage continu. C'est la trame narrative de Céline qui parcourt toute son œuvre. C'est un ratage prolongé. Ce qui est un défi narratif énorme. Il dit lui-même qu'il a passé sa vie à se mettre dans des situations impossibles. Mais c'est vrai aussi au niveau narratif. Raconter un ratage pendant toute une œuvre, pendant des milliers de pages, pour rendre ça intéressant, c'est vraiment dur, quoi. Et lui, il le fait, c'est vraiment intéressant. Même si ça peut choquer, c'est passionnant. Parcours de mort à crédit qui peut sembler exagérément oedipien. Hein. Et Céline lui-même s'en amuse, d'ailleurs. Hein. Il dit dans une lettre à Joseph Garcin, du 21 avril 1936, donc au moment où ça sort, « Les psychanalystes vont être ravis, je n'ai pas lésiné. » Bon, moi, il me semble que, donc plus que Deep, en tout cas, je crois que c'est le concept de dette qui est le plus opératoire, s'il faut théoriser ce parcours. Hein. Je vous l'ai déjà un petit peu évoqué, j'y reviendrai. Et le concept de dette, c'est présent en psychanalyse, c'est présent en anthropologie, c'est présent en philosophie. C'est un concept très très puissant. Évidemment, on peut se demander si le terme de formation est approprié pour lire Mort à crédit, dans la perspective d'un ratage continu. Toutes les expériences de faire s'apparentent à des échecs, où seule la violence fait retour. Ça, c'est la première lecture qu'on peut faire de Mort à crédit. C'est une succession de galères, quoi. Apparemment. Mais je ne crois pas que cette lecture par le sordide tienne longtemps. Et on continue à tremper Céline dans cette seule approche qui est extrêmement limitée, quoi. C'est pas un auteur du sordide. Ne serait-ce que parce que ce sordide est trop exagéré. Il est trop comique pour qu'on en reste là. C'est pas Zola, c'est pas un misérabiliste, Céline. C'est pas vrai. Il se passe autre chose. L'expérience sociale de la pauvreté et de la peur, elle confronte surtout le narrateur aux limites de son corps, en permanence. Et c'est peut-être le seul et unique sujet pour un roman de formation. Que peut un corps ? Bon, ça c'est la question, la grande question spinoziste, qui a été reprise maintes fois par Gilles Deleuze. Ça, je pense que j'y reviendrai quand je vous parlerai de Mille Plateaux à la fin de l'année. La réponse de Mort à crédit à la question spinoziste, que peut un corps, c'est... Il peut souffrir, il peut courir, il peut avoir peur sans cesse. Page 158, je cite, « Pour nous, l'âme, c'était la frousse. » Mais il peut aussi formidablement désirer. le corps de Ferdinand, c'est un corps désirant. Et pas seulement sur le plan sexuel, même si, évidemment, ce roman de formation, c'est un roman de formation érotique. Je crois que tout ça est encapsulé par l'expression qui est prononcée et qui frappe beaucoup Ferdinand par l'examinateur du certificat d'études, page 138-139. Il lui donne le certificat en lui faisant un peu peur d'abord. Il dit oui, vous n'êtes pas pressé, peut-être qu'une année en plus, tout ça. Donc Ferdinand commence à avoir la colique, quoi. Bon, et le type finit par lui dire, mais si, vous en faites pas, je vais vous faire entrer dans la vie. Bon, donc expression toute faite, entrer dans la vie, c'est-à-dire basculer dans le monde du travail, mais c'est aussi une formidable expression érotique, entrer dans la vie. Et c'est bien l'expérience que fait Ferdinand, petit à petit, il fait son expérience d'homme qui entre dans la vie. Donc il y a tout ça dans Que peut un corps. Quelle formation donc ? La formation à la vie, tout simplement. C'est-à-dire à l'élan vital qui prend Ferdinand sans cesse, comme une vague qui revient. Donc la vie, c'est l'élan vital, et c'est aussi l'annexion permanente de la vie par la culpabilité, par la faute, par la dette. C'est cette espèce de résurrection permanente de l'élan vital et de son annexion, de son écrasement par la faute. Voilà ce que Ferdinand apprend. Et ça, c'est bien plus qu'un échec. Dès lors, on voit donc que la vérité pour Céline, elle est dans cette émotion vitale plus que dans les faits. Ce qui l'intéresse, c'est pas que son Ferdinand apprenne, même mal, à travailler chez un horloger qui s'appelle Gorloge, à travailler dans le petit commerce, à parler anglais, parce qu'aujourd'hui ça se fait, parler anglais au début du XXe siècle pour être bon dans le commerce. Tout ça, ça ne l'intéresse pas. Les faits, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est l'élan vital. Et c'est son annexion par la dette, par la faute. C'est ces émotions-là qui l'intéressent. C'est ce qui explique qu'on puisse écrire une autobiographie qui soit un roman. Les faits ne comptent pas tellement. Ce qui compte, ce sont les émotions. Et la fiction est justement apte à les rendre dans toute leur puissance. Bien plus qu'une approche documentaire de la vie. Si la vérité, c'est les émotions, le roman, c'est très bien pour raconter la vérité. Et je crois que pour Céline, seul ce genre de fiction, une fiction qui repose sur l'émotion, est apte à triompher du mensonge, justement. Parce que le mensonge, il n'aime pas ça. Et c'est le deuxième point dans cette approche du roman autobiographique, après la question du roman de formation. Il me semble que dans Mort à crédit, il y a presque une forme de culte rousseauiste de la vérité. Céline aime bien se faire passer pour un auteur seul, un auteur qui ne doit rien à personne. Il dit qu'il lit pas, il dit qu'il n'a pas beaucoup lu, bon en fait, voilà, c'est truffé de références à toute la grande littérature. On connaît bien la littérature anglaise aussi. Il y a du Rousseau aussi dans Mort à crédit et dans Céline en général. Alors, ce qui est compliqué, c'est que chez Rousseau, c'est un tressage très complexe de la vie et de l'œuvre, et chez Céline aussi. Donc, c'est à la fois l'œuvre de Rousseau qui l'influence et la personne de Rousseau. Et puis, moi, je le lis à la fois dans ce que je sais de la vie même de Céline et dans ses textes, qui ne sont pas sa vie même, mais un roman autobiographique. Vous voyez, c'est des échos assez complexes. Voilà ce qui se passe. Ferdinand, adulte, au début de Mort à crédit, entreprend ce souvenir et lance le roman sous la forme d'une contre-expertise. C'est une recherche de la vérité qui lance le processus du souvenir. Sa mère, Clémence, est venue le veiller sur son lit de malade et elle entreprend un éloge du père, qui s'appelle Auguste, sur un mode que Ferdinand juge mensonger. C'est quoi cet éloge ? C'est l'éloge du bon pater familias et du bon époux. C'est mensonger, pour Ferdinand, pas tellement parce que ça nie les faits, je vous ai déjà dit que les faits, c'était pas le plus intéressant pour Céline, à mon sens, mais parce que ça les transforme en les annexant sur un idéal, sur des grands sentiments. Et ça, pour Céline, et par le biais de son personnage Ferdinand, c'est les vrais ennemis des émotions. L'idéal, les grands sentiments, c'est le contraire des émotions. Il y a une distinction entre sentiments et émotions qui n'est pas forcément évidente à comprendre au départ, parce que c'est des choses qu'on a tendance à assimiler. Chez Céline, il y a un fossé, quoi. Il y a une guerre entre sentiments et émotions. Pourquoi ? Parce que les sentiments, et surtout les bons sentiments, comme celui qui consiste à dire « Ah, mon époux, c'était un bon père !» c'était... Ces sentiments, c'est des déformations des émotions annexées sur les valeurs bourgeoises. Il y a un code, une valeur bourgeoise, qui vient fausser l'approche de la réalité. Et qui la rend, du coup, forcément malsaine, parce que cet idéal des bonnes valeurs, on ne peut jamais l'atteindre. Donc on est toujours en dessous. C'est-à-dire, on est toujours en dette, justement. On est toujours en dette par rapport à l'idéal bourgeois. On n'est jamais à la hauteur. On n'a jamais fini de ne pas être conforme aux valeurs. Et ça, pour Ferdinand et pour Céline derrière lui, c'est insupportable. Ferdinand adulte vitupère cette tendance à l'idéalisation, qui est celle de sa mère, avec une force qui a peu d'équivalent en littérature. Je vous lis ce qui se passe, page 46, et qui lance le processus du souvenir. Il parle de sa mère. Ça la possède, le souvenir, plus qu'il est mort et plus qu'elle l'aime. C'est comme une chienne qu'on finit pas. Mais moi, je suis pas d'accord. Même à crever, je me rebiffe. Parce qu'il est super malade et il s'énerve. Quand même. Je lui répète qu'il était sournois, hypocrite, brutal et dégonflé de partout. Elle retourne à la bataille. Elle se ferait tuer pour son Auguste. Je vais la dérouiller. Merde, je suis pas mal à rien pour de rire. Elle m'injurie, elle s'emporte, elle respecte pas mon état. Je me baisse alors, je lui retrousse sa jupe dans la furie. J'y vois son mollet décharné comme un bâton. Pas de viande autour, le bas qui godaille, c'est infect. J'y ai vu depuis toujours, je dégueule dessus un grand coup. T'es fou, Ferdinand, qu'elle recule. Elle sursaute, elle se barre. T'es fou, qu'elle regueule dans l'escalier. Je trébuche, moi, je m'étale. Je l'entends qui boite jusqu'en bas. La fenêtre est restée béante. Je pense à Auguste, il aimait aussi les bateaux. C'était un artiste, au fond. Il n'a pas eu de chance. C'est le reste de pitié et d'affection qu'il a pour son père, en fait. Ferdinand n'est pas tout blanc, tout noir, par rapport à la figure du père. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ils se battent, quoi. Ils se bastonnent avec sa mère, quoi. Pour la vérité. Pour la vérité sur la figure du père. C'est quand même énorme. Donc, quand je vous parle de violence pour la vérité, c'est pas un vain mot, quoi. Et il me semble là que ce personnage d'alter ego, Ferdinand, permet à Céline de manifester un point commun très frappant, mais parmi d'autres, avec Rousseau. On pourrait en citer d'autres. Il y a la paranoïa, il y a le rapport à la musique. Rousseau, au passage, évidemment, c'est le père de l'autobiographie, Les Confessions. Donc ça nous intéresse dans le cadre d'un roman qui est lui-même autobiographique. Donc l'ennemi de Rousseau et de Céline, c'est le même, c'est le mensonge. Pas de mensonge. Le mensonge, c'est le mal. Mais la réponse n'est pas la même entre Rousseau et Céline. Rousseau voit la vérité dans l'aveu des faits. Lui, il est sur les faits. Même si, en fait, il embobine tout le monde, il ne dit pas les faits, Rousseau. Ce qu'on sait de sa biographie et ce qu'il en dit dans Les Confessions, c'est par accord, ça ne marche pas, c'est pas grave. Lui, il prétend, Rousseau, avouer les faits. C'est pour ça qu'il appelle ça Les Confessions. C'est un aveu. Je dis ce qui s'est vraiment passé. Céline, il voit la vérité dans l'émotion, c'est-à-dire dans l'information sensuelle, corporelle. Pour Céline, la pierre de touche, c'est ça, c'est le corps. C'est pourquoi, chez Céline, le songe n'est pas le mensonge, au contraire, puisque le songe vient d'un état de corps. On songe quand on dort, ou quand on est plus ou moins en train de s'endormir. C'est une appréhension du monde par un état du corps. Et ça, c'est pas mensonger. Le corps, pour ce médecin qu'est Céline, il faut jamais l'oublier, c'est le vrai rempart de la vérité. C'est ça qui empêche de raconter des bobards. C'est-à-dire d'être toujours en dessous de la vérité. D'être aliéné par des valeurs irrattrapables. Quand on écoute le corps, on triomphe de l'aliénation par la morale bourgeoise. Si j'essaie de formuler d'une façon que Céline fait à jamais, ce qu'il fait, je peux le dire comme ça. Céline, il n'accepterait jamais qu'on parle comme ça de son livre, mais je suis pas là pour lui faire plaisir. Et c'est tellement vrai, ce rapport du songe et de la vérité, que c'est l'un des embrayeurs de l'écriture dans le roman. Il y a deux vecteurs de l'écriture au début de Mort à Crédit. C'est le rêve et le délire. Donc le rêve, ça nous est expliqué un peu par le biais, page 17, mais c'est quand même très clair. Donc c'est Ferdinand qui parle, hein, c'est pas Céline, mais voilà, tenons-en compte. Page 17, mon tourment à moi, c'est le sommeil. Si j'avais bien dormi toujours, j'aurais jamais écrit une ligne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire écriture égale pratique d'insomniaque, c'est-à-dire rapport entre écriture et rêve, quoi. C'est une sorte de substitut du rêve pour celui qui dort pas. Mais ça va bien puisque c'est un état de corps. Ça repose sur un état de corps. Rêver, écrire du rêve, quoi. Écrire à travers le rêve, à la place du rêve. Le délire, c'est le deuxième vecteur du récit. Un peu plus loin, là, page 47. Alors, tout en se battant avec sa mère, il est déjà plus ou moins en train de voir revenir des souvenirs dans le délire, et ça prend petit à petit la forme d'un bateau qui nage au-dessus de Paris. Ce qui est déjà une annonce du rapport très fort au père, puisque le père aurait voulu être marin, et qu'il est très fort en bateau. Donc voir le bateau au-dessus de Paris, d'une certaine façon, c'est réaliser l'idéal du père qui a vécu à Paris, alors qu'il aurait voulu être marin. Quoi. Et voilà comment se termine cette partie, toujours dans le rêve et dans le délire de la malaria, plus ou moins. Alors j'ai bien vu revenir les mille et mille petits canaux au-dessus de la rive gauche de Paris. Ils avaient chacun dedans un petit mort ratatiné dessous sa voile et son histoire, ses petits mensonges pour prendre le vent. Là, il y a un saut de ligne. Le siècle dernier, je peux en parler, je l'ai vu finir. Il est parti sur la route après Orly, blablabla, etc. Donc là commence le processus du souvenir en tant que tel. Mais ça termine, la partie de mise en place du souvenir, par cette espèce de délire sur des bateaux, quoi. Il voit des bateaux, et en fait, les bateaux, c'est les souvenirs. Hein, les mille bateaux, c'est les souvenirs qui lui reviennent, quoi. C'est des souvenirs délire. Mais c'est ça la vérité, puisque c'est le corps. C'est le corps qui délire. Tout ce qui vient du corps est vrai. Donc quand on délire des choses, bah, elles sont plus vraies que quand on parle comme sa mère, du bon père, etc. Ça, c'est des bobards. Et les passages que je préfère de Céline sont en effet de cet ordre, parce que ce sont les plus savoureux, les plus inventifs, les plus comiques. Bon, voir le bois de Boulogne que j'ai lu au début, c'est à la fois atroce et puis extrêmement drôle, très créatif. Hein. L'anglaise avec sa voiture au-dessus de sa tête, il faut quand même imaginer, quoi. C'est formidable. Mais je crois qu'il y a plus que cela derrière toutes ces scènes très oniriques, en fait. Il y a une pensée de la fiction. Donc une pensée qui n'est pas théorique. Hein. Céline refuse la théorie, mais il y a une pensée quand même. Ça, il ne peut pas s'en défendre. La fiction, c'est un délire ou un songe de la vie, mais pas un mensonge, puisque c'est le corps qui parle. Donc, la meilleure autobiographie, c'est une autobiographie de fiction. C'est pas que c'est des termes incompatibles pour Céline. C'est la meilleure autobiographie possible. Une autobiographie qui passe par la fiction en tant que rêve ou que délire. Donc, des faits passés au prisme du corps. Si on continue à opposer autobiographie et fiction d'une façon classique, on comprend rien, quoi. Et je crois que c'est ce qui explique cette prégnance du corps, cette vérité du corps, la récurrence, à travers tout le roman et de façon complaisante, du vomi et de la merde. C'est pas simplement pour choquer, pour dégoûter, même si c'est évidemment un enjeu pour Céline, c'est un emmerdeur, donc il tartine de merde. Voilà. On l'a emmerdé, il emmerde. Voilà, c'est une réponse. Bon. C'est le côté réactif de Céline, c'est vraiment pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est quoi? Je crois que le vomi et la merde, ce sont des modèles pour la parole. C'est ce qui sort authentiquement du corps. C'est peut-être dégueulasse, mais c'est vrai. Et ça, c'est toujours mieux que les bobards de la mer, qui racontent des fadaises, en dessous desquelles on sera toujours. Au moins, ça, c'est la vie. La merde, le vomi, ce sont des flots, des flux, comme la parole, et ça, c'est une liquidité qui intéresse le styliste qu'est Céline. C'est pas juste le côté dégueulasse, c'est aussi le rythme. Mais il se trouve que ce sont aussi des signes, le vomi et la merde. Ce sont des symptômes, comme le langage. Ce sont des idéaux, ce sont des modèles pour le langage, au niveau de la fluidité et au niveau du mode de signification. Au niveau du rythme et au niveau du sens. Le vomi, la merde, ça donne un discours sur le corps. Ils tiennent presque lieu de parole parce qu'ils tiennent parole. Mieux qu'une mère qui idéalise. Mieux qu'un père qui enjolive sa visite à l'exposition universelle et ses aventures de vacances. Parce que Auguste, il en raconte des tartines. Enfin, il y a une promenade atroce. Ils vont en Angleterre, il pleut. Ils n'ont plus leur valise, donc ils sont trempés. Et ils essayent de partir, ils voulaient aller à Londres, et tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est quelques kilomètres de bord de côte vers Brighton, que la mère prononce Bridgeton. Elle prononce Bridgeton. C'est écrit B-R-I-C-H. C'est génial, quoi. C'est hyper drôle. Bridgeton. Donc ils essaient d'aller à Bridgeton, et tout ce qu'ils font, c'est se prendre des embruns. La mère, elle peut pas marcher, parce qu'elle a la patte cassée. Enfin bon. Et de retour de vacances, le père dit, on lui demande s'il est allé à Londres, il dit, dans les environs. Et c'est beaucoup plus intéressant. Ça, c'est vraiment génial. Donc, c'est le petit, vous imaginez le petit Ferdinand, quoi. C'est aussi une... Ça, ça fait partie de la formation à la fiction, bien sûr, quoi. Ça fait partie du récit de formation à la fiction. Donc, voilà, résumé de cette histoire sur le délire et sur le rêve comme vecteur d'une fiction vraie, ben, le corps est un instrument de fiction. On peut dire ça comme ça. C'est le meilleur, même. Le corps est un instrument de fiction. Et c'est aussi, d'abord, je crois, un instrument de musique. Donc j'en arrive à ce point qui compte tant pour moi, ma petite musique, ce que Céline appelle ma petite musique. Et je voudrais d'abord vous parler des relations entre musique et mutilation, puisqu'elles sont capitales. Page 39, musique et mutilation. Ma grande rivale, c'est la musique. Elle est coincée, elle se détériore dans le fond de mon esgourde. Elle n'en finit pas d'agonir. Elle m'ahurit à coups de trombone. Elle se défend jour et nuit. J'ai tous les bruits de la nature, de la flûte au Niagara. Je promène le tambour et une avalanche de trombones. Je joue du triangle, des semaines entières. Je ne crains personne au clairon. Je possède encore, moi tout seul, une volière complète de 3527 petits oiseaux qui ne se calmeront jamais, jamais. C'est moi, les orques de l'univers. J'ai tout fourni, la bidoche, l'esprit et le souffle. Souvent, j'ai l'air épuisé. Les idées trébuchent et se vautrent. Je suis pas commode avec elles. Je fabrique l'opéra du déluge. Au moment où le rideau tombe, c'est le train de minuit qui entre en gare. La verrière d'en haut fracasse et s'écroule. La vapeur s'échappe par 24 soupapes. Les chaînes bondissent jusqu'au troisième. Dans les wagons grands ouverts, 300 musiciens bien vinasseux déchirent l'atmosphère à 45 portées d'un coup. Bon, ça, il se trouve que ça rejoint en plus les compositions contemporaines les plus ambitieuses, quoi. Le modèle de la locomotive, il est très très présent dans la musique contemporaine du XXe siècle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, Céline, plus ou moins assuré, il avait des bourdonnements terribles depuis la guerre. Voilà, il a entendu des éclats, etc. Paf, acouphène, tout le temps. Qu'est-ce que ça devient? Transféré dans Ferdinand, une blessure de guerre qui semble correspondre donc à des faits autobiographiques, mais surtout, c'est une mise à la limite du corps, à nouveau. C'est un corps soumis en permanence à du son. Que peut-il, ce corps, sur le plan de l'oreille, et pour reprendre ma question spinoziste, que peut un corps, il peut une écoute déformée, qui est à la fois une souffrance et une esthétique, bien sûr, comme très souvent chez Céline. Ferdinand est un personnage qui, depuis cette réception du monde, produit également une émission déformée, une production de sens, toujours modifiée par le son. On s'étonne moins que Céline soit un écrivain aussi musicien, si on sait que sa propre écoute du monde était en permanence parasitée. Mais la force est de transformer ce parasitage en une manière, en une technique. Alors cette technique, comment on peut l'envisager? On peut l'envisager au moins de deux façons, cette technique musicale dans l'écriture. On peut l'envisager sur le plan du lexique, et sur un autre plan que je vous expliquerai après, mais je garde mon titre parce que je le trouve chouette. Bon, évidemment, la technique du lexique pour musicaliser la langue, c'est la question de la fameuse langue parlée dans l'œuvre célinienne. Question maintes fois abordée, trop vite, souvent, bon, c'est normal, on n'a pas toujours le temps de tout faire. Bon, le lexique, guignol, nougat pour dire les pieds, poulopé pour dire marcher, etc., etc. C'est quoi? C'est, soi-disant, la langue du peuple. C'est l'argot. Tiens, tiens, mort à crédit paraît en 1936, l'année du Front populaire. Et plus globalement, parce que ça c'est plus une sorte de hasard des dates, le XXe siècle c'est le siècle dont le personnage historique principal c'est certainement le peuple. Et ce personnage historique principal, il hante littéralement la littérature du XXe siècle. C'est très difficile quand on est un littéraire au XXe siècle de ne pas se positionner par rapport à la question du peuple. Qu'est-ce que je fais du peuple? C'est vraiment le grand personnage qui entre sur la scène politique au XXe siècle. Bien sûr, ça commence avant, mais... Et puis les frontières sont floues, mais il se constitue sur le plan linguistique au XXe siècle, le peuple, comme personnage. Donc, que fait Céline par rapport à ce personnage? Il y a au moins une chose qu'il fait, c'est qu'il en adapte le lexique. Il se positionne comme ça. Il ne fait pas du peuple un héros, un personnage de fiction en tant que tel, mais il adopte la langue. Quels sont les effets de ce lexique ? Ben, il colore, bien sûr, il enrichit, il est drôle. Nougat pour les pieds, moi, à chaque fois que je le lis, je trouve ça drôle. Bignol pour dire la concierge, je sais pas, je trouve ça vraiment tellement bien vu au niveau sonore que... Enfin, c'est vraiment une perle, quoi. Mais c'est pas juste ça, le lexique populaire. C'est de la métaphore. Dire le nougat pour les pieds, c'est une métaphore. Et une métaphore puissante. Il y a des métaphores, même parfois, dans l'argot, qui sont d'une force synthétique inégalable, quoi. Dire, par exemple, les étagères pour dire les oreilles, c'est formidable, quoi. Ça dit des tas de trucs. C'est vraiment une langue très rapide, l'argot, à ce niveau-là. Parce que ça dit plusieurs choses en même temps. Ça fait une synthèse. Mais je crois qu'il y a plus que ça. Ce qu'il y a derrière cette figure du peuple, et qui explique que Céline se soit tellement battue au niveau stylistique pour adopter cette langue, c'est encore une fois un rapport au corps, un rapport à la santé. Chez Céline, il y a une certaine conception de la santé collective dans la langue. Bon, je vais déplier ça tranquillement, mais j'ai besoin de cette formule un peu trop dense au début. Et sur ce point, il prend modèle chez Rabelais. Donc un auteur que j'adore. Donc quand j'ai découvert Céline pour de bon, j'ai découvert assez vite qu'il aimait beaucoup Rabelais. Donc c'était très fort. Bon, il y a un texte de Céline qui est assez génial, où il est terriblement malhonnête. Il pose plein de problèmes, mais c'est intéressant. C'est un texte qui s'appelle Rabelais. Il a raté son coup. Et l'idée de Céline, grosso modo, c'est que on dit toujours de Rabelais que c'est le père des lettres françaises, etc. On l'honore, mais c'est pas vrai parce que la langue de Rabelais, elle a pas gagné. C'est pas la langue de Rabelais qui a gagné. C'est la langue de Amyot, qui est un type de la même époque. Et puis ensuite de Malherbe, Racine, etc. C'est ça qu'il a à l'esprit, Céline. Donc son idée, c'est que la langue de Rabelais, qui est une langue riche, multiple, qui fait justement large place au corps, etc., a été, il dit lui-même, émasculée. C'est pas une métaphore qui veut rien dire. Il dit pas qu'elle a été éclipsée, il dit qu'elle a été émasculée. Donc on a enlevé le corps. On a enlevé ce qui fait la vigueur du corps. Et il y a un passage où il articule plusieurs choses qui m'intéressent. Ferrez-vous-en plutôt à ce qui est intéressant chez Rabelais, son intention un peu démagogique d'attirer le public en parlant comme lui. Je comprends, moi. Rabelais était médecin et écrivain, comme moi. Ça se voit, la crudité juste. C'était un bon anatomiste, d'ailleurs, et chose prodigieuse pour l'époque, il opérait déjà. Vie, il a inventé un appareil chirurgical. Bon, ce paragraphe, il est passionnant, parce qu'il associe le peuple, sa langue, et le corps. Rabelais, anatomiste. Et il me semble, articulation du corps, du peuple et de la santé, voilà, c'est ça. Et il me semble que, bon, évidemment, Céline parle de lui, là, à travers Rabelais. Ce qu'il pense, Céline, c'est que le peuple est à la société ce que le corps est à la vérité. C'est-à-dire, il dit vrai. Le peuple est à la société ce que le corps est à la vérité. Le peuple, c'est, au sens propre, le corps social, pour Céline. On parle souvent de corps social. Pour Céline, la métaphore, elle fonctionne à plein. Donc pourquoi il reprend le langage du peuple ? Parce que c'est un langage qui dit vrai. C'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste pour faire gouaille. C'est parce que là-dedans, il y a une vérité qui est la vérité du médecin. Bon, évidemment, vous voyez tous les excès auxquels ça expose, ça. Hein ? Dire que le peuple, c'est le corps social, que c'est lui qui dit vrai. C'est anti-élite, très très vite du coup anti-juif, puisque les juifs font partie des élites dans les fantasmes de Céline et des antisémites. Voilà. Donc, dans ce texte, il y a beaucoup de risques, mais ça nous permet de comprendre la profondeur de la recherche. Bon, évidemment, cette oralité du texte célinien, elle est faite d'effets. Ce sont des effets d'oralité. C'est pas un simple enregistrement de la parole ou des propos du bistrot, quoi. La discussion du café du commerce. Et ça, Céline s'en explique très bien dans une interview avec Claude Sarraute dans Le Monde, qui date de juin 60. Très belle citation sur la question de la petite musique, justement. « Moi, j'ai fait passer le langage parlé à travers l'écrit, d'un seul coup. » Voilà, c'est de Rabelais, au passage. « Rabelais avait voulu faire passer la langue parlée dans la langue écrite, deux points, un échec. Ouais, » on voit vraiment bien la filiation, quoi. Moi, j'ai fait passer le langage parlé à travers l'écrit d'un seul coup. Claude Sarrault lui dit, ce passage est ce que vous appelez votre petite musique, n'est-ce pas? Je l'appelle petite musique parce que je suis modeste. Mais c'est une transposition très dure à faire. C'est du travail. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est calé. Pour faire un roman comme les miens, il faut écrire 80 000 pages à la main pour en tirer 800. Les gens disent, en parlant de moi, il a l'éloquence naturelle, il écrit comme il parle. C'est les mots de tous les jours. Ils sont presque en ordre, on les reconnaît. Seulement voilà, c'est transposé. C'est juste pas le mot qu'on attendait, pas la situation qu'on attendait. C'est transposé dans le domaine de la rêverie entre le vrai et le pas vrai. Et le mot ainsi employé devient en même temps plus intime et plus exact que le mot tel qu'on l'emploie habituellement. On se fait son style, il faut bien. Le métier c'est facile, ça s'apprend. Les outils tout faits ne tiennent pas dans les bonnes mains. Le style c'est pareil, ça sert seulement à sortir de soi ce qu'on a envie de montrer. Bon, il y a des tas de choses dans cette citation-là qui recoupent des trucs que j'ai déjà dit. Hein. Le rapport au vomi, par exemple, ça sert seulement à sortir de soi ce qu'on a envie de montrer. Enfin, on voit bien quoi, en quoi les matières corporelles sont des modèles. On a le rapport au vrai et au pas vrai, hein, qui est éloquent aussi sur cette question du roman autobiographique. Bon, voilà en tout cas pour ce qui concerne l'aspect langue parlée dans la petite musique, quoi, le rapport à l'oral. C'est chatoyant, c'est coloré, c'est synthétique, c'est métaphorique. Mais il y a une espèce de vraie pensée politique derrière, qui est une pensée de la santé aussi. Autre technique, non plus celle du lexique, mais la technique du stress. Bon, je suis très content de ce titre, évidemment, puisque, d'abord, je crois que c'est une technique plus puissante que la précédente. On parle très très souvent de la question de l'argot chez Céline, mais ça occulte le gros du boulot, à mon sens. Puisque le gros du boulot, la vraie arme de Céline, c'est le stress au sens à la fois d'angoisse et d'accent, bien sûr. L'accent en anglais, to stress. Et de nouveau, donc, tout vient du corps. Pourquoi est-ce que Céline arrive à trouver une langue stressée, au sens où c'est une langue accentuée? Parce que son personnage, Ferdinand, est un personnage dont le stress est le mode de vie. Le stress comme angoisse. Que peut un corps? Eh bien, il peut faire l'expérience maximale du stress. J'ai eu de la merde au cul jusqu'au régiment, tellement j'ai été pressé tout le long de ma jeunesse. Page 48. C'est très fort, ça, comme citation. Pour un homme de la fin du 19e siècle, la question du régiment, qui vient cesser cette espèce de... Enfin, c'est la libération par le régiment, quoi. Là encore, on tuile sur la fin de mort à crédit. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Ferdinand? Ben, je vais m'engager dans l'armée, parce que c'est ça l'appel d'air. C'est là que j'ai arrêté d'avoir la merde au cul, quoi. Donc il y a un rapport très fort dans cette citation entre le rythme pressé et le flux, la merde. J'étais tellement pressé que j'avais pas le temps d'arrêter le flux. Faut toujours essayer de prendre la merde au sérieux dans la littérature. C'est difficile, mais c'est toujours beaucoup plus qu'un truc pour écœurer le bourgeois, quoi. Dans la vie de Ferdinand, c'est exactement la même chose. Pas de transition entre les moments, c'est une succession d'expériences intenses. C'est quoi une vie stressée? C'est ça. Pas de transition entre les moments, succession d'expériences intenses. Et il se trouve que le rythme de Louis-Ferdinand Céline calque exactement ce vécu du corps. Pas de transition entre les moments, explosion de la syntaxe, et intensité des éléments, point d'exclamation. Succession de segments accentués. Donc, c'est stressé, comme sa vie, quoi. Voilà, c'est presque une sorte de sismographe de la représentation que Céline se fait de sa propre vie à travers Ferdinand. Formidable, la ponctuation exclamative, c'est une technique qui permet d'obtenir, et ça c'est vraiment miraculeux, ce que la langue française ne possède pas, des accents toniques. Contrairement à l'anglais. Contrairement à ce qu'arrive à faire Ginsberg naturellement. Bon, il y a un passage qui est formidable là-dessus dans Mort à crédit et qui annonce en fait Daniel's Band. Tout le début de Daniel's Band, c'est presque une succession d'onomatopées avec des points d'exclamation, quoi. Trouvez ça, page 30, donc c'est une description assez écœurante, hein, mais elle est tellement drôle, quoi. C'est les traitements faits aux vénériens. Toujours des sujets joyeux. Voilà, encore une fois, le corps a ses limites, etc. Donc déjà, ça se présente visuellement de façon... De façon stressée, quoi. Ces petits trous, c'est des petits segments point d'exclamation, point de suspension, point d'exclamation, point de suspension. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne du Ginsberg, en fait. Au vénérien, notre pratique, ça consistait en bâtons qu'on traçait sur un grand papier au fur et à mesure. Jusque-là, ça reste à peu près la langue de Racine. Mais ça suffisait. Un bâton rouge, Nova. Vert, Mercure. Et allez donc ! La routine emportait le reste. Bien contente. Il n'y avait plus qu'à piquer la sauce dans les fesses, dans les plis du bras. Ça lardait le pilon comme du beurre. Vert, bras. Jaune, fesses. Rouge, double fesse. Taille, foiron. Refesse encore. Bismuth, salope. Bleu, veine qui pisse, pourri. Reculotte, tampon. Une cadence sans défaillance. Des bordées, et puis encore d'autres. Des filaments qui n'en finissent. Mandrin moulu, polanar. Bite en goutte. Suinte, purule, gros linge en pesée, dur carton, gonneau, marche en travers, reine du monde, le cul sur son trône, chauffer l'été comme hiver. Comment essayer de retrouver de l'anglais dans du français? Je crois qu'il y a vraiment un truc comme ça chez Céline. Il y a une entreprise de traduction à l'intérieur de la langue. Il cherche à parler anglais en français. Et il peut le faire puisqu'il connaît l'anglais. Il connaît bien l'anglais, il parle très bien. Il a même traduit, le premier truc qu'il a publié, c'était une traduction d'un texte anglais. Donc sur ce point, il me semble que la phrase est construite comme la narration d'ensemble, hein, à l'échelle de la phrase comme à l'échelle du roman. Qu'est-ce qui se passe? C'est une linéarité d'éléments juxtaposés et intenses. La linéarité est conservée, hein, c'est ce que je vous disais à propos du roman de formation au départ. Il n'y a pas de rupture dans le flux. Là où ça se passe, c'est qu'à l'intérieur de ce flux, il n'y a pas de juxtaposition et tous les éléments sont assénés, quoi. Et ça tient sur des centaines de pages, parce que c'est toute la vie qui est stressée, aliénée et intensifiée à la fois par le mécanisme de la dette, justement. C'est ça le moteur. Le moteur du stress, c'est la dette. C'est la peur face à la dette. La trouille de fond, c'est la dette. Et donc c'est ça qui maintient cette espèce de cadence permanente, à la fois à l'échelle des événements, à l'échelle de la phrase, etc., etc., aux différentes échelles du texte. Bon, c'est bien vie et dette. En l'occurrence, dette infinie. Et on va voir que l'adjectif est capital. Vie et dette. Mort à crédit égale dette infinie. Est-ce que c'est une question d'argent? Oui, bien sûr. C'est d'abord une question d'argent. Mort à crédit. C'est d'abord un grand texte sur l'argent. Mais on va voir que ça va bien au-delà de ça, cette histoire de dette. L'argent occupe tout l'espace de l'expérience par sa rareté. Le titre s'explique d'abord dans un sens strictement financier. Pour ceux qui courent sans cesse après l'argent, vivre, c'est acheter sa mort à crédit. Donc c'est la dimension Zola dans Mort à crédit, qui est présente dans toute l'œuvre de Céline. Hein. Dans le même cahier de Lerne dont je vous tirais le texte Rabelais, il a raté son coup, il y a un hommage à Zola. Qui a été écrit par Céline, qui est plutôt un texte de jeunesse, mais qui est intéressant. Et on l'a d'abord tiré de ce côté-là, Céline. Il a été très très bien accueilli par la gauche à la sortie de Voyage au bout de la nuit en 1932, comme grand critique par la misère du système capitaliste. C'est comme ça qu'il a été perçu. Il a un temps joué ce jeu-là, et puis bon, on sait comment ça évolue après. Et du coup, phénomène intéressant, Ferdinand passe énormément de temps à compter. Je ne sais pas si ça vous a frappé, moi je ne l'avais pas vu avant dans le texte, mais il y a tout le temps des énumérations. Et généralement délirantes. Bon, vous vous souvenez des 25 000 forces de l'ordre qui viennent libérer la place de la Concorde, mais il y a une citation assez géniale, page 31, où là on rejoint Rabelais aussi complètement. C'est encore sur les maladies vénériennes, et c'est pas anormal, quoi. C'est un thème sur l'hypertrophie des maladies vénériennes. Il n'y a pas que des vénériens, mais il y en a pas mal. L'aigreur au réveil des 14 000 alcooliques de l'arrondissement, les pituites, les rétentions exténuantes des 6 422 blénorrhées qu'ils n'arrivaient pas à tarir, les sursauts d'ovaires des 4 376 ménopauses, l'angoisse questionneuse de 2 266 hypertendus, le mépris inconciliable de 722 bilières à migraine, l'obsession soupçonneuse des 47 porteurs de ténia, plus les 352 mères des enfants aux ascarides, la horde trouble, la grande tourbe des masochistes de toute lubie. Phrase nominale, il n'y a pas de verbe. C'est juste une énumération. Bon, là, on est en plein dans Rabelais. Ça rappelle vraiment les énumérations de Rabelais. Il y a même une énumération chez Rabelais qu'on n'arrive pas à lire parce que c'est 9 milliards. Et en fait, c'est juste qu'il a mis 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mais au départ, on ne le voit pas. On a l'impression que c'est un nombre, quoi. Et en fait, il dit, il y en avait 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ce qui est enfin, assez fort, ça peut vouloir dire plusieurs choses. C'est le fait de compter de façon exagérée, quoi. Il renverse la vapeur, il s'amuse avec, quoi. Le fait de tout le temps compter, lui, il se met à compter des trucs qui n'existent pas, quoi. Bon, et de toute façon, ça nous met sur la route du fait que compter l'argent, c'est pas la grande affaire de Mort à Crédit, en fait. C'est pas ça le vrai problème. Le crédit, il s'arrête pas à l'argent. Ce serait trop beau s'il s'arrêtait que là, en fait. La question du crédit dépasse l'argent. On va au-delà du roman social. Bon, les psychanalystes savent que l'argent n'est pas simplement un équivalent général, un consensus sur la valeur objective des choses, mais c'est un objet de névrose. Et les anthropologues, bon, dans la lignée de Marcel Mauss, la théorie du don et du contre-don, savent que le système du crédit dépasse la simple sphère économique. Ça engage l'honneur, la morale, dans les sociétés qui pratiquent le don et le contre-don, qui ont été étudiées par Marcel Mauss. Et c'est surtout Nietzsche qui a formidablement montré le lien du crédit à la culpabilité et son effet dévastateur sur l'expérience même de la vie. Et je crois que c'est ce type d'outil qu'il faut mobiliser pour comprendre pleinement la question du crédit dans le roman de ses livres. Il ne faut pas s'en tenir à l'argent, il faut en arriver à cette équation mort à crédit égale pas seulement dette, mais dette infinie. Et ça, c'est l'invention nietzschéenne, l'invention de la dette infinie. Cette autobiographie, c'est une vraie méditation sur la vie tout court, pas simplement sur la vie d'un individu. Qu'est-ce que c'est que la vie? On peut faire vraiment une lecture très très deleuzienne de Mort à Crédit, quoi. Que peut un corps? Qu'est-ce que la vie? C'est des questions de Deleuze. La légitimité pour vivre n'est pas seulement due à l'argent. Être légitime dans sa vie, ça ne tient pas simplement au fait d'être riche, de pouvoir payer son loyer, etc. L'argent, c'est un représentant normatif du bien. C'est un symbole du bien. C'est pas simplement un symbole de la valeur des choses, c'est un symbole de la valeur des êtres. Être pauvre, donc, c'est être mauvais. Et le problème, c'est qu'à partir de là, aucun argent ne peut racheter cette faute. Il y a des citations énormes sur la culpabilité dans Mort à Crédit. C'est vraiment un roman qui montre ce qu'est la culpabilité d'une façon exemplaire et à quel point c'est l'ennemi à abattre, la culpabilité. Page 57. Je demandais pardon à propos de n'importe quoi. J'ai demandé pardon pour tout. Et ça suffit pas. Ça, c'est dans le rapport au père. Le père étant le grand représentant de la culpabilité dans la cellule familiale. C'est pour ça qu'il faut le tuer, par exemple avec une machine à écrire. Et une autre citation qui est énorme que je voudrais vraiment retrouver. Donc c'est pareil, rapport au père. Il ne savait plus par où me sauver. Moi, je savais plus par où expier. Je savais plus par où expier.
Bon. C'est quelle page ?
Pardon, ouais, c'est page 147. Et là, évidemment, moi j'entends un écho immense de l'inventeur du concept de dette infinie, qui est Nietzsche. Tel que lu par Deleuze dans, mais bon, c'est présent chez Nietzsche, hein, l'expression de dette infinie, dans, par exemple, ce formidable petit ouvrage de Deleuze sur Nietzsche que je conseille à tout le monde. Il y a plus de santé là-dedans que dans toute l'œuvre de Michel Onfray, je vous assure. En plus, c'est court. Que dit Nietzsche? Il dit, le génie des textes judéo-chrétiens, c'est d'avoir inventé une dette qui ne se rembourse pas. Dans la plupart des systèmes sociaux, il y a des systèmes de dette. Une des institutions de la société, c'est comment on prête et comment on rembourse. C'est pour ça qu'il y a des banques, donc c'est pour ça que dans d'autres sociétés, il y a des groupes sociaux qui sont spécialisés là-dedans, même s'il n'y a pas de banque. Qu'est-ce qu'ils inventent? Les écrits judéo-chrétiens, ils inventent une dette qui ne se rembourse pas. Qu'est-ce que c'est que Dieu? C'est un banquier qui n'en finira jamais. Et il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de droit à vivre. Donc voilà, je ne savais plus par où expier. Il y a vraiment une résonance très très forte, quoi, une circulation très, très étonnante, très puissante entre les textes de Nietzsche et le texte de Céline. Bon, la question des dettes, elle est présente en littérature. Hein. C'est normal, l'argent, c'est l'autre grand système de signes par rapport au langage. Il y a deux grands systèmes de signes qui caractérisent les hommes, c'est d'un côté l'argent et de l'autre le langage. C'est les deux manières de donner un équivalent de l'expérience qui sont concurrentes d'une certaine façon. Et il y a un éloge des dettes qui est assez génial chez Rabelais. Là encore, il y a un écho entre Rabelais et Mora Crédit. Dans le tiers-livre, Panurge fait un éloge des dettes. Il est ultra endetté. Panurge, c'est un punk, quoi. C'est le type qui fait rien comme il faut. Enfin bon, c'est un type qui est complètement livré à ses affects. Bon. Et un de ses grands trucs, c'est qu'il contracte des dettes. Mais il le fait pas, il le fait intentionnellement. Parce qu'il dit, alors, grâce aux dettes, je conserve du lien social. Parce qu'il faut que je discute avec mes banquiers. On n'est pas sur l'argent comme équivalent neutre, en fait. Il faut de la discussion. Et ça, Panurge, il adore. Il parle, voilà, c'est un personnage rabelaisien, donc il est ultra bavard. Et du coup, il adore les dettes, parce que pour lui, ça lui permet d'avoir un contact avec les banquiers, en fait. Donc de juguler la neutralisation des rapports sociaux par l'argent. Bon, c'est très fort. Mais là, c'est l'inverse du truc célinien, quoi. Moi, je crois que la relation est plus forte entre Céline et Nietzsche là-dessus. Mais ce qui est étonnant, c'est que chez Nietzsche, le grand banquier, c'est Dieu. Le banquier de nos existences, c'est Dieu. Et qu'est-ce qui se passe dans Mora Crédit? Il y a deux choses qui sont curieusement absentes de Mora Crédit. C'est la description de la vie à l'école. Très très peu de scènes d'école. Alors, si vous lisez Enfance de Jules Vallès, je veux dire, vous êtes au milieu de la cour pendant 300 pages. Bon, l'école n'est pas citée et il n'est jamais, jamais question de Dieu. Jamais, ou presque. Dans des expressions au détour, on ne comprend pas très. Donc c'est curieux quand même. Dette infinie, hein, il vit la dette infinie, Ferdinand, mais il n'y a pas Dieu. Qui est censé être le grand banquier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de Dieu, en fait. Dieu, il est rentré dans les corps. Il n'y a pas besoin d'un truc extérieur au corps. Dieu est dans les corps, en tant que créditeur infini. Il est incarné comme pouvoir d'endettement à l'intérieur du triangle familial. Je ne sais pas si Céline a réfléchi à la représentation de Dieu comme triangle, mais il y a un truc très frappant, quoi. Le système d'endettement se suffit à lui-même à l'intérieur de la famille. Il n'y a pas besoin de Dieu pour le lancer, en fait, ou pour l'exercer. Alors, cette culpabilité généralisée, c'est peut-être une explication du comportement de Céline dans la vie sociale. Là, je risque une explication sur la biographie, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais au passage. Qu'est-ce qu'il fait, Céline? Il cherche à se rendre le plus coupable possible. Sa biographie, ça pourrait être ça. Céline égale le type qui cherche à se rendre le plus coupable possible. Il essaye de devancer la culpabilité, on dirait. Comme il dit que Ferdinand arrive à devancer la folie dans le passage que je vous lisais tout à l'heure sur la musique. Fièvre ou pas, je bourdonne toujours et tellement des deux oreilles que ça ne peut plus m'apprendre grand-chose. Ça, c'est un petit peu en amont par rapport à ce que je vous ai lu. Depuis la guerre, ça m'a sonné. Elle a couru derrière moi, la folie. Tant et plus pendant 22 ans. C'est coquet. Elle a essayé 15 sans bruit. Un vacarme immense. Mais j'ai déliré plus vite qu'elle. Je l'ai baisée. Je l'ai possédée au finish. Donc, il fait la course avec la folie, Ferdinand. On a l'impression que Céline fait la course avec la culpabilité. Il cherche toujours à être en avance d'une culpabilité sur les autres. Comme ça, au moins, c'est pas les autres qui l'accusent. C'est toujours lui qui a commencé, quoi. Bon, et je vous laisse développer, évidemment, sur qui est-ce qu'on prend en haine quand on est le grand endetté. On prend en haine les banquiers, associés par un esprit volontairement irrationnel et provocateur, comme celui de Céline, aux Juifs. Il n'y a pas de Dieu, mais comme grand endetteur, mais il y a les Juifs, voilà, haro sur le baudet, quoi. On a l'impression qu'il n'a jamais assez d'énergie pour dans les pamphlets, hein, bien sûr, pour dire du mal des Juifs, quoi. Mais je crois que par le mécanisme de la dette, par la manière dont, à travers un personnage, Céline nous explique comment la dette a empoigné sa vie, on commence à comprendre le passage à l'antisémitisme. On commence à faire autre chose qu'être choqué, ce qui est normal, et qu'être moral, ce qui est peut-être normal aussi, mais pas pertinent. Au bout d'un certain stade, ça suffit plus. Annexion de la vie par la dette. Ça, c'est le grand mécanisme qui est décrit dans Mort à crédit. La dette capture toute la vie. Elle peut toujours capturer toute la vie. Elle a une force pour insuffler de la mort dans la vie, pour faire qu'on ait des vides mort-vivants, qui est inépuisable. Ce mécanisme de culpabilité, là, qui triangule dans la famille, mais qui est vraiment... aussi un moteur social généralisé, hein, ils sont tout le temps en train de se faire de la délation, de s'accuser, etc. Il est extrêmement présent dans Mora Crédit. Et pourtant, la vie se repointe sans cesse. La vie retriomphe tout le temps, comme émotion, comme élan vital. C'était l'élan vital dont je vous parlais tout à l'heure. Encore une fois, repensons à l'expression « entrer dans la vie ». qui est aussi vraiment l'histoire de Mora Crédit. Il y a plein de moments de vitalité folle, quoi, une vitalité qu'on n'arrivera jamais à atteindre. Voilà, en gros, moi, ce que j'avais à vous dire sur le texte, avec juste cette petite clausule qui n'engage que moi, mais je tenais quand même à vous dire quelque chose. Je tenais à vous dire quelque chose sur l'erreur de Céline, ce qui, à mon sens, est une erreur, qui l'emmène à finalement jamais sortir du ressentiment. Il n'arrive pas à triompher du ressentiment. Quelle est son erreur ? Je crois que c'est de confondre mensonge et trahison. Il en veut terriblement à sa mère et à son père des mensonges, à travers Ferdinand. C'est pour ça qu'il se lance dans l'autobiographie, dans Mora Crédit. C'est ce mécanisme de contre-expertise dont je vous parlais. Faire le contraire des mensonges. Et pourquoi est-ce qu'il n'aime pas les mensonges ? Parce qu'il a l'impression que c'est la trahison. Il a l'impression que quand on ment, on trahit. C'est-à-dire qu'on coupe le lien social, c'est-à-dire qu'on isole. Ça vient d'un sentiment de perte, d'un sentiment d'abandon. Ça haine du mensonge. Quand on vous ment, on vous abandonne. Et ça, c'est une expérience intolérable pour Céline. Ça aussi, c'est un mécanisme psychologique bien repéré, quoi. La peur de l'abandon. Et là-dessus, sur cette critique du mensonge, Céline en mange donc tout un éloge de l'émotion anti-intellectuelle. Ce qui est vrai, c'est l'émotion. Ce qui ment pas, ce qui trahit jamais, ce qui m'abandonne jamais, c'est mon corps, c'est mes émotions. Bon, le problème, c'est qu'un certain type de mensonge, il jette le bébé avec l'eau du bain, quoi, comme souvent dans les erreurs intellectuelles. Il me semble que Céline jette le bébé avec l'eau du bain. Il en mange tout son système d'éloge de l'émotion, mais grâce auquel naît une langue formidable, sur une théorie trop grossière. Mensonge égale trahison, égale rupture du lien social. Alors que d'autres approches de la société, qui sont intéressantes, posent au contraire qu'un certain type de mensonge est nécessaire au lien social. Il faut, disons, dans cette perspective-là, dans la perspective de ces théories-là, qu'on trouvera chez Norbert Elias, par exemple, il faut enrober, quoi. Il faut arrondir les angles. Il faut mentir par omission. Cette histoire de mensonge bénin. Et du coup, ce qui est assez drôle, c'est que ce chantre de l'émotion, ce chantre de l'anti-intellectuel, reste, malgré tout, dans cette perspective-là, tributaire d'une morale idéale. La morale de pas de mensonge. Ce qui est, dans la vie sociale, proprement un idéal. C'est impossible. Dans le cadre des théories de la société dont je vous parle, comme chez Norbert Elias, son travail sur la cour, etc. Et c'est comme ça que quelqu'un qui cherche à sortir du nihilisme des valeurs bourgeoises, nihilisme au sens nietzschéen, c'est-à-dire le fait de nier la vie, qu'elle plonge nos existences dans une insuffisance, ce grand contempteur du nihilisme bourgeois, bah, il reste du coup dans un idéalisme nihiliste, quoi, dans un idéalisme qui écrase la vie, qui lui permet pas de vivre, quoi, qui lui permet pas de profiter, en fait, de jouir tranquillement. Bon, c'est une petite ouverture qui n'engage que moi.